Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Cette émission Au fil des pages revêt un caractère nouveau puisqu'elle est consacrée à une grande maison d'édition, en l'occurrence les Presses universitaires de France, PUF, et à un grand éditeur, le président du directoire des PUF, monsieur Michel Prigent. Monsieur Prigent, bonjour.
Bonjour.
Les PUF, ce sont des collections très connues pour certaines, presque populaires, comme les célèbres Que sais-je. 1300 titres, 160 millions d'exemplaires vendus. Ce sont aussi des dictionnaires, des revues, des manuels, la fameuse collection de poches quadriges. Bref, les PUF, c'est une institution et c'est aussi une entreprise. Un mot sur cette maison que vous dirigez, depuis quand existe-t-elle ?
Elle existe dans la configuration de départ depuis 1921. Elle avait été créée sous forme coopérative et le quadrige PUF, qui est actuellement le symbole de la maison d'édition, résulte de la fusion à la fin des années 30 entre les PUF première version, celle de 1921, l'éditeur d'histoire et de bibliophilie presque Leroux, l'éditeur de philosophie Alcan et l'éditeur de littérature générale Rieder, ce qui fait que l'intégralité du fonds des PUF depuis les années 30 jusqu'à maintenant, intègre à la fois le vieux fonds PUF plus Leroux, Rieder, Alcan.
Combien de personnes travaillent au PUF ?
Près de 70.
Près de 70, sans compter les auteurs qui, bien sûr, travaillent aussi au PUF. Je voudrais vous présenter Michel Prigent plus personnellement, parce qu'en vous connaissant mieux, en retraçant même brièvement votre parcours, on comprendra mieux vos choix éditoriaux. Vous êtes agrégé de lettres classiques, ancien élève de l'École normale supérieure, docteur d'État S-Lettres et Sciences humaines. Vous avez consacré votre thèse à Corneille, et plus précisément au sujet « Le héros et l'État » dans les tragédies de Corneille, et j'ose former le souhait que nous pourrons un jour parler de Corneille en cette année où on célèbre l'année Corneille. Vous dirigez les PUF depuis 1994. Aujourd'hui, Michel Prigent, nous allons parler d'un événement en matière d'édition que l'on doit à votre initiative. Mais dans une autre émission, nous parlerons de vos activités dans ce monde de l'édition parce que vous connaissez parfaitement ce rôle et vous y jouez un rôle important et influent. Lorsque vous étiez étudiant, Michel Prigent, vous rêviez d'entrer dans l'édition ?
Absolument pas. Je pensais à une carrière classique d'universitaire ou de chercheur. Ça s'est fait par hasard.
Alors, je le disais, vous venez de créer l'événement en dirigeant et en publiant l'histoire de la France littéraire. Alors j'insiste sur ces deux mots, diriger et publier, car ce sont deux métiers dans l'édition différents, n'est-ce pas ?
Absolument. Certains éditeurs, heureusement, peuvent être des auteurs, surtout s'ils sont, cela va de soi, d'origine universitaire. Ce qui nous a paru intéressant, car c'est une idée collégiale avec l'ensemble des chefs de file, et puisque nous sommes à Canal Academy, je pense évidemment à mon ami Michel Zinc, l'idée a été de jouer de deux manières. Premièrement, un constat, les études littéraires, la lecture des textes littéraires, la connaissance des œuvres littéraires dans l'ensemble des structures de l'enseignement, dès le collège et le lycée jusqu'à l'université, ne sont probablement pas en phase avec ce qu'apporte effectivement la littérature à la connaissance de la réalité psychologique, sociale, humaine, etc. Et il fallait donc tenter de construire un très grand projet mobilisant toutes les énergies dans le domaine de la critique littéraire au sens large du terme, y compris parce que cela n'avait pas été fait depuis longtemps. Vous faisiez allusion tout à l'heure au rôle de l'éditeur. C'est un peu la stratégie de départ de celle qui consiste à construire des très grands dictionnaires. Il n'en existe pas depuis 10, 20, 30 ou 40 ans, voire il n'en existe pas du tout, ni en français, ni en langue étrangère. Donc, il faut faire quelque chose qui a un aspect, je suis prudent sur le mot militant, j'allais dire en tout cas engagé au plan culturel, pour reconquérir des lecteurs, faire aimer les œuvres et ce que nous avons voulu dès le début, être l'ambition de la reconstitution du plaisir littéraire en France.
On va en reparler du plaisir.
Pour que ce soit déterminant, effectivement. Et puis, la deuxième idée, c'était effectivement de considérer que, après des polémiques et des critiques et des périodes souvent stériles où d'ailleurs les critiques contribuaient plus sans doute à faire fuir les lecteurs qu'à faire lire les œuvres, y compris par leur côté abscons sans être forcément intelligent, il fallait repasser par quelque chose de très simple, c'est-à-dire ne pas faire une histoire de la littérature française. Il y en a, elles sont bonnes, elles sont parfaitement disponibles, y compris La Gare des Michards, célèbre et décriée à tort par certains modernistes ou pseudo-modernistes.
Mais bien pratique.
Mais faire effectivement une histoire de la France littéraire en considérant, avec une légère parodie évidemment d'une phrase célèbre, une certaine idée de la France, que la littérature fait partie et constitue un élément essentiel du tissu social français sur la très très longue durée.
Michel Brizan, il me semble que vous êtes un éditeur qui ose, un éditeur qui prend des risques, parce que vous venez de le démontrer en publiant cette histoire de la France littéraire qui est sortie en mars 2006, mais très peu de temps avant, en octobre 2005, vous aviez aussi créé l'événement avec un autre gros volume, gros ouvrage, le Dictionnaire de l'Antiquité. Les auditeurs de Canal Académie ont eu le plaisir d'entendre M. Jean Leclan, qui l'a dirigé, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, en parler dans plusieurs émissions. Alors, c'est le propre d'un éditeur que de prendre des risques, parce que publier des ouvrages qui font 3000 pages ou presque, c'est tout de même un risque.
Alors, c'est évidemment un risque. Il est de notoriété publique que l'année 2005, et d'ailleurs, n'a pas été extraordinaire dans l'édition en termes économiques. Il est à peu près clair que depuis un trimestre, la situation ne s'est pas inversée. Il y a deux types de situations dans ce cas-là, baisser les bras ou essayer de réfléchir. Et en plus, comme baisser les bras n'est pas tout à fait dans l'esprit des puffs, ni d'ailleurs dans l'esprit de la plupart de mes confrères, l'idée était de dire, est-ce qu'on réfléchit globalement, parce que ce sont des projets qui prennent 5, 10, 15 ans quelquefois, qui mobilisent des centaines de personnes, qui en termes de capitaux mobilisent 500, 600, 700 000 euros pour les plus lourds, ce n'est pas tout à fait insignifiant, sur la longue durée, c'est d'arbitrer entre ce qui est le propre de l'industrie culturelle, la logique de la demande et la logique de l'offre. Quand on prend la décision de solliciter M. Jean Leclan pour diriger un dictionnaire de l'Antiquité qui paraît 10 ou 15 ans après, ce qui est normal vu le temps de travail gigantesque, 13 millions de signes, soit dit au passage, quand un que sais-je en fait 200 000, on voit l'ampleur ne serait-ce que matérielle, je ne parle évidemment pas de la qualité des contenus qui est évidente, on prend un pari, on anticipe par exemple que la bataille pour les humanités n'est pas une bataille perdue et que se battre pour l'Antiquité et publier 10 ou 15 ans après, ça a clairement un sens. Même chose évidemment, puisque là encore nous sommes dans les murs académiques, pour le dictionnaire du Moyen-Âge ou pour tel ou tel autre type de projet, c'est-à-dire une logique de l'offre. Je ne réponds pas comme éditeur à la demande immédiate, ça c'est une politique classique de manuel, d'organisation de la vie intellectuelle, la transmission des savoirs, mais comme éditeur, le risque c'est d'anticiper et de proposer quelque chose à 5, 10, 15 ans en se demandant comment les grands courants ou les grands mouvements de l'opinion intellectuelle en France et à l'étranger, car c'est un marché mondial, vous citiez M. Jean Leclan, il est évident que c'est un livre qui a un marché mondial, que la langue française n'est pas un obstacle pour comprendre les ouvrages et pour lire les ouvrages de ce type. Et effectivement, il y a des prises de risques à court terme qui sont nécessaires et des prises de risques à moyen long terme qui sont sur des logiques de l'offre forcément un peu plus périlleuses, d'où d'ailleurs assez souvent le choix du poche pour que, je fais exprès d'employer le mot qui peut éventuellement choquer, le consommateur ou le client puisse avoir accès à des trésors de savoir et de richesse à des prix extrêmement raisonnables.
Donc, Michel Brizan, un éditeur, c'est un peu un prophète, c'est quelqu'un qui devine l'avenir, qui, enfin, en tout cas, essaie de le pressentir pour savoir ce que les gens vont aimer dans 5 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans.
Voilà.
Pas facile.
Et accessoirement, ce qui le différencie un tout petit peu du prophète, qui se contente que les choses qu'il a annoncées se réalisent, c'est qu'on essaie d'y contribuer, c'est-à-dire de créer un environnement qui soit aussi favorable que possible. Je pensais, puisqu'on citait le dictionnaire de l'Antiquité, bénéficier pour le lancement, ce qui a été possible, des remarquables salles du Louvre, comme on avait bénéficié de l'infrastructure, j'allais presque dire esthétique, du musée du Moyen-Âge, est déterminant pour accompagner un livre, car il faut que les futurs lecteurs voient aussi que tout cela est en phase avec le développement des musées, avec la relecture d'un certain nombre d'œuvres, avec des représentations théâtrales, avec certains types de musique qu'on réédite ou pas, et ce sont effectivement des réflexes d'anticipation avec 5-10 ans de jeu.
On doit pressentir l'air du temps. Alors, dans cette histoire de la France littéraire dont nous parlons en ce moment avec Michel Brizan, vous avez donc joué un double rôle, celui de l'éditer, c'est un rôle d'éditeur, mais aussi celui de le diriger. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un certain nombre de chefs de file, c'est-à-dire de personnes qui ont pris en charge, de spécialistes qui ont pris en charge différentes périodes. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez comment cette histoire de la France littéraire est découpée en périodes sans être néanmoins chronologique.
Le pari que nous avions eu au départ, et pas uniquement par souci, j'allais dire systématique, d'innover, c'était d'agir, si je puis dire, à la fois du côté des auteurs et du côté de la reconstruction ou reconfiguration des contenus. Du côté des auteurs, l'idée était très simple. Les chefs de file, qui sont M. Zinc pour le Moyen-Âge, M. Lestringant pour le XVIe siècle, M. Darmont pour le XVIIe siècle, M. Delon pour le XVIIIe, M. Berthier pour le XIXe et M. Jarty pour le XXe, je suis désolé de l'énumération, mais je tiens d'abord à leur rendre hommage, sont des chefs de file particulièrement prestigieux et connus dans l'université, et ils ont pu mobiliser sur l'ensemble des sujets toute une série d'auteurs, en leur donnant une grande liberté. Si les auteurs ont pu agir, et les chefs de file des trois volumes ont pu agir aussi facilement, c'est qu'ils ont laissé les auteurs s'épanouir librement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de traiter tel ou tel type de choses étroitement, mais vous pouvez prendre du temps pour traiter un ensemble d'œuvres, une problématique, des questions juridiques, théologiques, sociales, militaires, religieuses, politiques, qu'on retrouve évidemment dans la littérature, et que la littérature exprime à un moment ou à un autre. Comme chef de file du projet global, j'étais très attaché à l'idée que ce fût une vraie politique d'auteur. On retrouve d'ailleurs la sensibilité de la maison d'édition qu'on trouve dans les dictionnaires. Et le deuxième principe, en s'appuyant évidemment sur des personnalités de cette qualité, c'était de rompre un certain nombre d'habitudes. On a tendance, tout à l'heure en présentant mes collègues, j'ai donné leur spécialité et leur centre d'intérêt, j'allais dire leur principe de légitimité scientifique. Le livre est construit sur l'idée qu'il y a trois grands moments. Le premier grand moment, c'est un moment naissance-renaissance, et nous avons regroupé l'ensemble Moyen-Âge, Renaissance, avec une idée toute simple. Le Moyen-Âge assure la conservation et la transmission, y compris dans les textes originaux, de l'ensemble de l'Antiquité, par différentes voies. Et la Renaissance la redécouvre, la traduit, que les textes soient profanes ou sacrés, et fait passer l'ensemble de l'Antiquité dans les langues de l'Europe, ne serait-ce qu'évidemment pour la France, par la traduction ou bien de la Bible ou bien par tout le travail des humanistes.
Alors vous dites, je me permets de vous interrompre un instant parce que vous dites la Renaissance, mais je vois que là c'est écrit les Renaissances, oui, au pluriel, et les naissances et les Renaissances. Et d'ailleurs, classicisme et modernité sont écrits aussi au pluriel. Alors c'est une volonté évidemment du directeur que vous êtes d'avoir voulu écrire cela au pluriel, pourquoi ?
Alors, c'est une volonté de, si j'avais le sens de la provocation et du jeu de mots, je dirais que c'est un pluriel singulier. J'ai bien parlé de la Renaissance, et si je cite Erasme, je pense au XVIe siècle, mais évidemment, on peut penser à la Renaissance carolingienne ou à la Renaissance du XIIe siècle. Et si j'ai parlé de naissance au pluriel, c'est que la langue française, par exemple, ou tel type d'expression littéraire, apparaît à un moment ou à un autre. Ce qu'on a pu constater, c'est peut-être dans un texte comme autour du traité de Verdun, c'est peut-être dans un tel ou tel type d'œuvres littéraires, mais il aurait été dangereux de scander d'une manière excessive. L'idée qu'on a voulu faire passer dans ce volume, c'est qu'il y a eu une série de genèses et de mises au monde sur une période extrêmement longue, de la tradition de l'Antiquité jusqu'à la reprise de l'ensemble de l'Antiquité par, alors cette fois-ci au sens classique, la Renaissance. Et si on passe au volume suivant, et pour vous répondre en effet, les classicismes et pas le classicisme, pour toute une série de raisons, une unité d'abord d'ordre politique. Le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est l'Ancien Régime, pas uniquement ces deux siècles-là, mais c'est clairement l'Ancien Régime. Et je relisais ces jours-ci l'excellente édition qui vient de sortir du siècle de Louis XIV de Voltaire. Et l'un des premiers mots de Voltaire pour qualifier le siècle de Louis XIV est de dire que c'est l'un des siècles les plus éclairés qu'on ait connus. Et évidemment, il pense en même temps, il le dit, au siècle de Périclès ou au siècle d'Auguste, ça va de soi. On pourrait tout à l'heure reprendre l'idée aussi, par exemple, de tel ou tel siècle du Moyen-Âge. Donc, si Voltaire, parlant de Louis XIV, dit que c'est un siècle éclairé, c'est bien entendu que la notion de lumière n'est pas à détacher arbitrairement, comme si les lumières avaient commencé à la mort de Louis XIV et que le classicisme s'était éteint en même temps que le vieux monarque, ce qui serait un peu trop facile et un peu trop simple. Même interprétation pour le baroque. Je pense à l'extraordinaire livre de Tapier qui continue de faire autorité sur baroque et classicisme. Je pense à la Renaissance de la représentation et des représentations du théâtre baroque, de la musique baroque dans ses configurations les plus variées. Bien entendu, les classicismes au pluriel, une certaine idée de la règle, de la forme, de la passion dominée, de la raison en acte ou en image, qui va jusqu'à la Révolution française. Et quant au troisième ensemble, toujours, effectivement, vous avez raison, le pluriel, c'est-à-dire le mot modernité, pour qualifier l'ensemble 19e, 20e, de même que d'ailleurs les choses ne s'arrêtent pas arbitrairement quelque part en 1715, elles ne s'arrêtent pas arbitrairement ni au début de la Belle Époque, ni lors de l'attentat de Sarajevo en 1914. Il y a bien des mouvements des deux côtés et ce sont des chaînes de modernité qu'on retrouve depuis les ruptures qui suivent la Révolution française jusqu'à la littérature immédiatement contemporaine. Et l'ensemble était bien l'idée de dire c'est parce que la France littéraire reprend la manière dont toute l'histoire du pays s'exprime dans les lettres, les arts et les mœurs, pour citer quelques mots et quelques fragments de mots célèbres, que nous avons essayé de reconstruire une sorte de fil rouge sur l'ensemble, toujours au pluriel, le pire étant évidemment de figer dans la singularité des auteurs quelque chose qui ne peut pas être mis en boîte.
Et l'idée novatrice de cette histoire de la France littéraire, qui n'est pas, comme vous l'avez dit, une histoire de la littérature, est-ce que ce n'est pas de faire se côtoyer différentes disciplines ? Il n'y a pas que la littérature et la critique littéraire, il y a bien d'autres aspects, bien d'autres disciplines qui servent aussi. La sociologie, par exemple, d'autres...
Absolument. L'idée, dès le départ, était de penser à la fois aux œuvres, aux conditions de leur source, aux conditions de leur transmission pour l'amont et pour l'aval, à leur réception, à leur impact. Et effectivement, toute une série d'auteurs, y compris contemporains, ont été, ou sur la période contemporaine, ont été mobilisés pour obtenir ce type de résultat, de manière à éviter... J'ai été tout à l'heure un peu sévère pour certains critiques et pour ne pas donner de nom, je les ai appelés comme Molière, Trissotin et Vadius dans ma préface. Le danger pour nous était, et c'est pour ça qu'on a réinsisté sur l'idée de plaisir littéraire, la littérature ne s'enferme pas dans la critique, fût-elle littéraire, et effectivement, la musique doit venir non pas à son secours mais être à côté d'elle, pour une raison toute simple, c'est qu'à quelques périodes que ce soit, peut-être plus encore, évidemment, à la grande période classique, c'est le même public qui est à un moment ou à un autre en train de regarder un tableau, d'écouter un opéra, de lire un livre, de participer à une conversation de salon. Et la couverture même des trois volumes va dans ce sens. La littérature est solitaire. Pour le premier volume, c'est un moine qui recopie des textes latins. La littérature devient sociale et mondaine. Pour les classicismes, c'est une déclamation d'une œuvre devant des courtisans richement parés, selon l'expression consacrée. Et pour les modernités, c'est le film de Germinal à partir de Zola, avec les acteurs de cinéma immédiatement contemporains. La littérature est dans le conflit social. Si on l'enferme dans les clés, quelquefois surannées, de la critique littéraire et surtout des excès du formalisme ou de certaines aberrations structuralistes, j'ai pas dit du structuralisme, j'ai bien dit des aberrations structuralistes, évidemment, on perd toute la saveur et on se détourne de l'intérêt pour l'œuvre.
Absolument. Michel Prigent, vous avez rédigé la préface de ces trois volumes, de ce coffret que constitue l'histoire de la France littéraire. Je me suis permis de lire attentivement votre préface et j'y ai trouvé des mots, j'ai relevé un certain nombre de mots, et c'est du moins mon impression, qui trahissent votre projet. Les mots « séduire », « enchanter », que j'ai trouvé plusieurs fois, ou « enchanteur », ce qui est pareil, « charme », espérance, plaire, goûter. Michel Prigent, ce sont là les mots du plaisir et vous avez donné comme définition à cette entreprise, Histoire de la France littéraire, le livre du plaisir littéraire. Alors j'aimerais bien qu'on parle du plaisir.
Alors effectivement, ces mots sont revenus plusieurs fois. D'abord parce qu'ils font partie très souvent, pour la plupart d'entre eux, de la culture littéraire et que, comme j'ai essayé de l'indiquer tout à l'heure au début de notre entretien, l'inquiétude que nous sommes beaucoup à avoir dans le domaine, non pas de l'édition mais de la littérature, est la suivante. Est-ce qu'on a encore envie de lire des œuvres ? Est-ce que d'ailleurs l'enseignement dans les collèges et dans les lycées donne bien l'envie de lire des œuvres, de regarder des auteurs et de comprendre ? Et finalement, est-ce que on éprouve autre chose quand on a travaillé sur une œuvre ou qu'on l'a lue, qu'un sentiment de lassitude, de corvée ou de fatigue. J'ai évidemment vous avez raison de le dire, dit plusieurs fois enchanté, etc. D'abord, je pense à des personnages, Merlin l'Enchanteur et quelques autres. Je pense au rôle de la féerie, de la magie et du merveilleux dans la littérature. Je pense à la représentation de l'irreprésentable, quelles que soient les œuvres littéraires. Et puis, tout simplement, l'un de mes auteurs préférés n'est pas sans raison La Fontaine. Je vois avec plaisir d'ailleurs qu'on traverse les genres. La Fontaine a été jouée à la Comédie-Française comme une pièce de théâtre, alors que ce sont des fables. Et les hommes et les femmes ont été transformés en animaux, ce qui est exactement la règle du jeu de la métaphore. Le plaisir littéraire, c'est tout simplement qu'on ait envie de prendre un certain nombre de choses et qu'on soit pas forcément plus près du vrai, du beau, du juste ou du bien, comme disent nos amis philosophes à la fin, mais qu'on soit, j'allais dire, plus prosaïquement, pas comme Monsieur Jourdain, mais plus prosaïquement, plus heureux après qu'avant. Et le plaisir littéraire, c'est effectivement l'agrément que donne la lecture. Je citais La Fontaine, et je pense tout simplement à quelque chose de très simple, qui est d'entendre des enfants éclater de rire quand on représente au théâtre des pièces de Molière. La critique, un peu trop souvent, à étouffer à force de vouloir interpréter, laissons les gens apprécier sans les obliger à croire qu'on peut tout comprendre de manière excessivement formaliste.
Molière ne vous aurait certainement pas dit le contraire. Donc, est-ce que vous faites partie de ces gens qui s'inquiètent pour l'avenir de la lecture ?
Oui.
Pas de l'apprentissage de la lecture, non, mais du fait de lire ou de ne pas lire.
Encore d'ailleurs que si on apprend à lire n'importe comment, on aura du mal ensuite parce que les dyslexies peuvent être formelles et intellectuelles après. La difficulté est effectivement que, et je citais volontairement La Gare des Michards tout à l'heure, ce sont des fragments, on donnait à lire des œuvres et il faut que tout le monde puisse lire. Or, actuellement, nous avons la chance fantastique dans l'histoire de l'édition et de la culture du monde entier que tout est disponible en poche. Or, à un moment où l'intégralité des œuvres sont disponibles en poche, dans des éditions savantes de grande qualité d'ailleurs, quelle que soit la langue, le pays, le genre littéraire, roman, poésie, théâtre, tout ce qu'on veut, et je suis un peu inquiet quelquefois par le risque qu'on ne lise pas assez, qu'on ne prenne pas assez de plaisir à lire et surtout à relire les grandes œuvres. Le propre d'une très grande œuvre, si on a lu à 18 ans La Chartreuse de Parme, La Princesse de Clèves, Madame Bovary, que sais-je, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le relire à 25, qu'on ne va pas le relire à 40, qu'on ne va pas le relire à 70. Une grande œuvre se lit et se relit, elle se redécouvre. Je pense au dernier texte qu'a publié Marc Fumaroli chez Gallimard sur la lecture et on voit bien effectivement le travail nécessaire et en même temps l'extraordinaire plaisir qu'on trouve au fur et à mesure de la lecture en redécouvrant chaque fois des sens nouveaux. C'est pour ça que je m'amusais tout à l'heure à citer Voltaire, où on n'attendait pas forcément le mot éclairé pour parler du XVIIe siècle. Donc relisons, lisons, relisons, et les choses se feront d'elles-mêmes avec un agrément de plus en plus grand, parce que plus on lit, plus on a envie de lire, plus on écoute de belles musiques, plus on a envie d'en écouter.
Oui, parce que mieux on apprécie, parce que mieux on connaît, effectivement, bien ça sûr. Va ensemble. Michel Prigent, il me reste non seulement à vous remercier pour cette émission, mais aussi à vous dire à bientôt, puisque dans d'autres émissions, nous évoquerons avec vous le métier d'éditeur, qu'on a seulement effleuré aujourd'hui, et le monde de l'édition, un milieu passionnant, mais qui est confronté à des difficultés de différentes natures. Je rappelle que votre Histoire de la France littéraire, dont nous parlions aujourd'hui, c'est un coffret de 3 volumes, un coffret qui fait, si ma mémoire est bonne, 2688 pages, presque 3000 pages, sorti dans la collection Quadrige, au PUF, et que vous êtes le président du directoire des PUF et le directeur de cet ouvrage. Combien d'auteurs ont participé ?
Une soixantaine, systématiquement, et un certain nombre de collaborations extérieures.
Merci Michel Prigent et bravo pour ce chef-d'œuvre. J'espère qu'il l'aura dans l'édition et dans les librairies et chez les particuliers la place qu'il mérite. Merci beaucoup.
Grâce à vous, je le lui souhaite. Merci.
Merci.